explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
C'est avec bonheur et gourmandise que nous revenons planter notre tente sur la grille d'été de France Inter. Nous serons là du lundi au vendredi à 14h pour une heure d'aventure et d'évasion. La curiosité en bandoulière et les oreilles grandes ouvertes, nous partirons à la découverte du monde en compagnie de scientifiques, d'écrivains, d'historiens et autres globe-trotteurs de tous horizons. Pour notre première de l'été, nous sommes ravis de retrouver l'un des habitués de nos bivouacs, un plongeur de l'extrême, naturaliste et photographe, Laurent Balesta. Véritable explorateur en série, chaque fois qu'il nous rend visite, il a une nouvelle grande aventure sous-marine à nous raconter, de nouvelles découvertes à partager. Sa dernière expédition s'est déroulée au large du Cap Corse. Laurent Balesta s'est pris de passion pour un monde étrange et absolument fascinant. Dans une vaste plaine sablonneuse, à plus de 100 mètres de profondeur, près de 1600 structures circulaires, des anneaux, tous identiques, aucun équivalent dans le monde, un paysage presque surnaturel et surtout d'origine inconnue. Pour résoudre cette énigme, Laurent Balesta s'est associé à une trentaine de scientifiques et a mis en œuvre des techniques de plongée novatrices. C'est une enquête passionnante que retrace le documentaire Cap Corse, le mystère des anneaux, disponible sur le site d'Arte. Puis le musée des Confluences à Lyon consacre également une exposition à cette aventure. Cet après-midi, Laurent Balesta nous emmène bivouaquer dans les fonds marins au large du Cap Corse et nous raconte comment il est parvenu à percer le mystère des anneaux. Et en fin d'émission, première nouveauté de l'été, nous avons rendez-vous avec le naturaliste de terrain Marc Giraud, qui nous emmènera chaque semaine observer la nature en bord de chemin. Aujourd'hui, il nous parlera d'un oiseau qui a des points communs avec les dauphins. Emma Bouvier a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Benjamin Wagon. Allez, c'est parti, on replonge, soyez les bienvenus dans notre premier bivouac de l'été.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Dix ans. Dix ans que je les imaginais et je les vois enfin. Des anneaux à perte de vue. Je n'ai jamais vu un tel décor. Le paysage paraît organisé, presque artificiel. Un peu comme un jardin à la française. Tous les anneaux sont identiques et se composent de trois éléments. Un noyau central rocheux, un disque de sable clair, puis une couronne sombre, tout autour, composée de petits cailloux colorés. D'habitude, les plaines de sable sont comme des déserts, trop instables pour le développement d'une vie sous-marine foisonnante. Voilà pourquoi je pensais trouver des choses inertes, des restes de petits cratères, mais sûrement pas quelque chose de vivant.
Bonjour Laurent Balesta.
Bonjour Daniel.
Extrait de votre dernier documentaire Cap Corse, le mystère des anneaux, qui est disponible gratuitement sur le site d'Arte. Il a déjà été diffusé il y a deux mois, mais il est encore disponible pour plus d'un an, je crois. On entend dans cet extrait votre émerveillement en découvrant en vrai, pour la première fois, ces anneaux. Il a vraiment fallu 10 ans pour que vous puissiez plonger dessus pour la première fois.
Oui, c'est aussi une question d'opportunité. Il faut remettre dans son contexte. C'est au large du Cap Corse, tellement au large qu'on ne voit plus la Corse.
Ouais.
On est loin. C'est au nord du Cap Corse. C'est un lieu de passage de tout le trafic maritime. Donc, se mettre à l'eau à cet endroit-là, au milieu, il y a quand même régulièrement des cargos énormes qui passent là. Or, quand on part sur ces plongées profondes, c'est des plongées qui vont durer 4, 5, 6 heures. Donc, il faut qu'on ait une vraie fenêtre. Mmh. Ou alors, il faut dérouter des cargos qui pourraient passer au-dessus de nous.
Ah, oui.
Bon, et puis, en plus, c'est un endroit où les Bretons vont sourire, mais où la mer peut offrir des conditions terribles. Ouais. C'est un des endroits où la météo est la plus difficile en Méditerranée, avec un régime de vent qui change du tout au rien.
Ouais.
Donc ça a pris du temps à ce qu'on ait cette petite fenêtre, qu'on ait les moyens d'aller faire cette première plongée qui était vraiment pour assouvir une curiosité. Ouais. Et je ne savais pas encore que ça allait durer aussi longtemps.
C'est une véritable... Oui, c'est ça, parce que ça a duré 3 ans. Hein, entre le moment où vous commencez à vraiment dire on va mener l'enquête, c'est 3 ans d'enquête, parce que c'est une véritable énigme, ces anneaux.
Quand je suis descendu pour la première fois à l'été 2020, c'était vraiment... Voilà, on avait entendu parler de cette découverte sans plongeur, sans être descendu. C'est-à-dire, c'est une découverte faite par une campagne de sonar, faite depuis la surface. Ouais. Mais tout à coup, il y avait ces formes étranges qui apparaissaient sur l'écran du sonar. Les premiers, ceux qui l'ont découvert, qui étaient d'anciens professeurs à moi, ont utilisé un vocabulaire, ils ont parlé d'atoll, de coralligène, des choses comme ça, qui faisaient marcher l'imaginaire plus que la réalité, quoi. Ouais. Et on s'était toujours promis de trouver un moment pour y aller, un moment. Ouais. Voilà. Et quand on y est allé, je me souviens très bien ne pas être descendu jusqu'au fond, en fait.
Ah oui?
pas dans un premier temps. Je suis resté 20-25 mètres au-dessus d'eux. J'ai laissé mes camarades continuer parce que ce que je voyais là, c'était cette vision que le sonar pouvait pas donner et que pareil, si on va trop dedans, on n'est plus que dans le détail, on voit pas. Moi, ce que je voulais voir, c'était cette dimension qui avait l'air surnaturelle, donc avec un minimum de recul, et voir ces formations là bien organisées, c'est un fond marin qui avait l'air d'être arrangé.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit exactement? Alors, c'est des cercles parfaitement circulaires.
J'ai jamais survolé les vieilles cités aztèques ou les lignes de Nazca ou ce genre de choses, mais à mon avis, ça fait le même effet. Quand on se dit, c'est pas naturel, quoi. Ouais. Et bon, alors, en l'occurrence, c'est naturel, mais il nous aura fallu quand même quelques années pour comprendre l'origine de tout cela. En tout cas, il m'a pas fallu 3 ans pour comprendre que ce serait passionnant. C'est dans les 2 premières minutes de la plongée, j'ai senti qu'on tenait là un beau mystère à percer.
Un beau mystère qui a fait donc naître la nouvelle expédition, grande expédition Gombessa 6. C'est-à-dire qu'il y a eu auparavant 5 autres expéditions Gombessa. Alors nous avons consacré, je pense, dans le temps d'un bivouac, une émission à chaque fois qu'une nouvelle expédition Gombessa voyait le jour. On peut peut-être commencer par la toute première, parce que Gombessa, ça tient justement ce nom. Oui. C'est quoi Gombessa?
Gombessa, c'est le nom local, le nom tribal, presque, j'ai envie de dire, du sélacanthe. Ouais. Ce poisson un peu mythique, ce poisson qui est considéré comme la plus grande découverte zoologique du XXe siècle, que l'on croyait disparu depuis 65 millions d'années, qui est réapparu au milieu du XXe siècle, en 1938 exactement, même si on n'y a pas cru. Ouais. Quand il a été réapparu et décrit par le professeur Miller, tout le monde a crié à l'imposture, au canular, etc. Parce que c'était comme dire que que les tyrannosaures sont toujours vivants.
C'est un poisson préhistorique qui refait surface.
Plus que préhistorique, encore une fois. 65 millions d'années. Ouais. Et qui a laissé aucune trace fossile entre 65 millions d'années et aujourd'hui. Donc, personne n'y croyait. Or, c'était bien vrai. Ce groupe zoologique n'avait pas disparu. Il y avait encore au moins un représentant. Simplement, il vivait à grande profondeur. Sa population était sans doute plutôt faible et bien discrète. Ouais. Et ça a été une révolution pour les paléontologues, pour les biologistes. Et ensuite, il a livré ses secrets au compte-gouttes. Il a fallu attendre 52 pour le deuxième. C'est là qu'on découvre la population des Comores. Enfin, surtout, on découvre les Comoriens. Ouais. Les Comoriens qui disent, mais le sélacanthe, on le connaît. D'abord, il ne s'appelle pas sélacanthe, il s'appelle Gombessa.
Et voilà.
Gombessa, depuis peut-être des millénaires, ils l'appellent ainsi. Ils le capturent accidentellement parfois.
Dans leur filet, parfois,
oui,
ils le remontent.
Filet, ou leur ligne de profondeur, plutôt. Mmh. Et puis voilà, et donc c'est une réalité, tout à coup on dit qu'il va répondre à toutes les questions de l'évolution, c'est un témoin du passé, en plus il porte en lui les caractères, les stigmates de la sortie des eaux des tétrapodes.
Ouais.
Il a une amorce de poumon, il a déjà dans ses nageoires l'amorce du tibia, du fémur, de tous les os des tétrapodes.
Ouais.
Donc vraiment, les évolutionnistes, les paléontologues, ils ont trouvé, c'est le Graal, quoi.
Ouais.
Après au final, on va s'apercevoir qu'il va poser plus de questions que de réponses,
c'est souvent comme ça. Mais vous, votre pierre à l'édifice, c'est que vous avez été, Laurent Balesta, le premier. Alors, il vit dans les grandes profondeurs, hein, ce poisson à plus de 100 mètres de profondeur, et vous avez été le premier à le photographier dans son espace naturel.
Oui, oui, ça, c'était mon, un peu un fantasme d'étudiant en biologie marine que de rejoindre cette légende de la zoologie chez lui et pas sur une table à disséquer, quoi.
Ouais.
Donc être chez lui dans son antre, le voir évoluer dans son écosystème, voir ses nageoires tourner un peu comme des godilles, comme des hélices au ralenti, enfin, c'était envoûtant. Et on n'a pas fait que l'admirer, on l'a vraiment étudié avec des protocoles qui venaient du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, le professeur Gaël Clément qui nous a accompagné là-bas, qui est un paléontologue, quelqu'un qui a toujours étudié des fossiles.
Ouais.
Et là, on lui donnait l'occasion d'étudier son fossile, mais dans sa version vivante.
Oui, c'est ça, qui est incroyable. On comprend pourquoi. C'est un peu l'expédition fondatrice, ce Gombessa.
Ah oui, oui, oui. Il y avait tout ce que j'aime. C'est-à-dire, il y avait d'abord un mystère.
Ouais.
Parce que c'est ça. Moi, vous savez, la beauté des fonds marins, je m'en contrefous.
Oh, vous y êtes quand même un peu sensible, non?
Franchement, non, parce qu'aujourd'hui, je considère qu'elle crée plus de convoitise que de respect, la beauté des fonds marins. Dès qu'on voit quelque chose de beau, moi aussi, je veux y aller. Peut-être pour ça que j'ai jamais mis les pieds aux Maldives. C'est très beau, mais qu'est-ce que j'irai y faire de plus?
Okay. Enfin,
vous voyez. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'on connaît pas, c'est tout ce qui nous dépasse, etc. Donc cet animal, c'est le grand mystère. Voilà.
Mmh.
Et après... percer ce mystère, ça entraîne trois valeurs qui me sont chères et qui me passionnent. D'abord, le défi de plonger.
Mmh.
Il y a une aventure.
Parce qu'il était très profondément, il nage très profondément.
Oui,
donc
oui,
il fallait faire des plongées extrêmes pour aller le photographier.
Des plongées extrêmes avec des décompressions dans des courants qui nous déportaient de 10 km par plongée parfois.
Mmh.
Donc c'est compliqué. Ensuite, il y a la science, étudier le vivant. Ça, c'est quand même passionnant de réfléchir à des protocoles. Et puis... ce qui peut-être me motive le plus in fine, c'est la promesse d'images inédites.
Enfin,
voilà. Alors ça, c'est les trois valeurs des expéditions Gombessa. Peu importe que ce soit un sélacanthe ou pas.
Ouais. Alors on va pas toutes les citer, mais on va en citer d'autres. Il y a eu aussi 700 requins dans la nuit. Là, c'était en 2014. Au départ, c'était des mérous que vous alliez observer. Et puis finalement...
Oui, d'ailleurs, d'abord, ça a été le mystère mérou.
Ouais.
Il y a eu deux expéditions Gombessa.
Ouais.
En 2014, juste un an après le sélacanthe, le mystère mérou. Nous sommes allés dans cet atoll de Fakarava pour la reproduction des mérous.
Donc on est en Polynésie ?
En Polynésie, ouais, dans l'archipel des Tuamotu, dans cette passe sud où on savait qu'il y avait ce rassemblement de mérous, mais où la reproduction elle-même n'avait jamais été documentée.
Mmh.
Et on ne savait pas le mécanisme et comment ça marchait. Donc là, il y avait de nouveau pareil, défi de plongée, une plongée de 24 heures pour être là quand ça va se passer, parce qu'on sentait bien que ça devait être très court. D'ailleurs, ça dure moins de 30 minutes une fois dans l'année.
Ouais.
Donc il faut être là. Il y avait l'étude du mécanisme de ce phénomène d'accouplement tous ensemble, et puis les images de cette ponte collective qui n'avait jamais été faite.
Ouais.
Voilà, après, il y a eu un voyage en Antarctique avec Vincent Munier et Luc Jacquet pour aller voir les écosystèmes profonds.
Le voyage en Antarctique, ça c'était en 2015, et vous êtes allé donc plonger dans ces eaux froides qui bordent l'Antarctique, et en découvrant le premier site de plongée, manifestement, vous et vos coéquipiers étiez enthousiastes.
Si, je vois la roche.
Oh putain.
T'avais raison. On voit le fond. Regarde l'eau claire.
Elle est
claire. Mais ça, c'est la plongée du siècle là. Et le point sur la carte, ça fait un an et demi que je regarde que ce truc sur la carte.
Regarde comme il est lisse.
Oh là 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 là.
Usé par la glace, t'as vu là.
Oh là 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 là. Ça c'est...
Regarde,
tu t'en donnes la chance qu'il fallait pour que la banquise s'arrête à cet endroit-là et pas à un autre.
Bon, mets ton masque.
La perche que je...
Alors ça, ce sont les petites vidéos carnet de bord que vous mettez sur votre site internet pour partager vos expéditions. Et ce que j'aime dans ces petites vidéos-là, c'est que, entre guillemets, vous vous lâchez plus. Vous montrez plus les coulisses que dans les documentaires.
Ouais,
là, on sent toute l'exaltation du groupe.
Les réalisateurs disent que je suis trop dans le contrôle.
Non, mais là, parce que...
C'est normal, il y a de la pression, il y a la tension, il y a des résultats. C'est dur de se lâcher, mais il y a des moments comme ça, oui. En plus, là, l'expédition n'a pas vraiment commencé.
Ouais.
Et cet enthousiasme, il est aussi lié à 11 jours de traversée pour atteindre la Terra Deli, où normalement on en met 4, hein,
ouais.
Mais on a eu des conditions dantesques. On a fait deux fois demi-tour avec l'Astrolabe, aller se cacher autour de l'île de Macquarie, une île australienne, tellement les conditions étaient mauvaises. Et quand on arrive enfin à Terra Deli, le bateau, on est devant la banquise, la base est encore à quelques kilomètres, et donc il fait exprès d'accélérer pour se planter dans la banquise, rester parqué là, planté à la banquise, ouais. Et ensuite on commence les rotations avec la base. Et le hasard, mais c'était plus qu'un hasard, ça nous a... Enfin, on n'avait pas envie de croire au hasard, forcément, tout rationnel que l'on soit. Mais il s'est planté à 100 mètres d'un îlot rocheux, mais minuscule, hein, une tête d'épingle qui sort de la roche, sur lequel je fantasmais depuis... presque 2 ans qu'on préparait ce voyage, où j'avais toutes les cartes de la Terra Deli, et je cherchais des endroits où j'allais plonger. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de me mettre à l'eau et d'être sous la glace. Bon, c'était, encore une fois, d'aller voir la vie. Donc, pour chercher la vie, il faut trouver les fonds rocheux qui s'y prêtent, etc.
Mais il y a beaucoup de vie en Antarctique, parce qu'on imagine
c'est fantastique.
Un désert.
Ben, c'est surtout un tel contraste.
Ouais.
C'est un contraste à double titre. D'abord, c'est le continent monochrome par excellence. Il n'y a pas de couleur, tout est blanc, quoi. Peut-être bleu un peu.
Ouais.
Voilà. Quand on passe sous l'eau, c'est multicolore. Je suis pas en train de fantasmer.
Ouais,
c'est multicolore, même la glace. En particulier, la glace pluriannuelle, celle qui ne fond pas l'été, elle se patine, elle se teinte d'algues, de bactéries, elle devient... Il y a tout le spectre de l'arc-en-ciel, hein, du rouge, du jaune, du vert. Mmh. Déjà, ça, c'est merveilleux. Et puis, l'autre grand contraste le plus intéressant, c'est celle du vivant. Mmh. On est dans le plus grand désert du monde. Dans le Sahara, il y a des centaines d'espèces. Sur la banquise ou même sur le continent antarctique, il n'y a rien. Mmh. Je dirais, d'abord, est-ce que les manchots... Oui, mais les manchots et les phoques, c'est plus de la faune marine ou de la faune terrestre? Bon, déjà, voilà. Mais il n'y a pas de lichen, il n'y a pas un champignon, il n'y a pas une plante, il n'y a rien. C'est le plus grand désert du monde.
Ouais.
On passe sous l'eau, rien que sur la Terra Deli, qui est un tout petit bout.
Ouais.
Et vous imaginez que l'effort de recherche n'est pas celui, je ne sais pas moi, en Méditerranée, par exemple. Bon. Il y a déjà plus de 9000 espèces décrites. Alors ce contraste de vie, il est extraordinaire. Alors évidemment, ces 9000 espèces, elles ne sont pas là juste sous la glace. Plus on descend profond, plus il y a à voir.
Ouais, il faut toujours que ce soit un peu inaccessible pour que ça vous plaise, parce que comme ça, vous découvrez évidemment par définition ce que les autres n'ont pas vu avant vous.
J'aime bien cette idée de la vie à l'écart de la vie.
Ouais.
Et le fait d'être moi-même un peu poussé dans mes propres retranchements, j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là qu'on est le plus attentif à ce qui nous entoure.
Et c'était donc le cas pour cette nouvelle expédition, Gombessa 6, où cette fois-ci, alors vous n'êtes pas allé en Polynésie, vous n'êtes pas allé en Antarctique, vous êtes allé au large du Cap Corse, parce que là, en fait, vous nous montrez que un mystère ne vaut pas forcément par la distance qui nous sépare de ce mystère.
Non, l'exotisme, elle est dans le regard qu'on porte aux choses, hein, de toute façon. Et la Méditerranée, bah, c'est quand même c'est la biodiversité que je connais le mieux.
Ouais.
Donc c'est là où j'ai sans doute le plus le sens du détail ou de la nuance. Et le Cap Corse en particulier, c'est un endroit où l'on travaille depuis beaucoup d'années maintenant. Toute la Corse, mais le Cap peut-être encore plus. Et ces anneaux-là, c'était la cerise. C'est déjà un endroit merveilleux. Hein,
ouais.
Ce Cap Corse, c'est quand même... La Corse est préservée, le Cap Corse encore plus. Et en plus d'avoir un écosystème extrêmement préservé, on avait là une énigme scientifique.
Alors, il faut quand même la présenter clairement, cette énigme. Hein. Il y a aujourd'hui combien? 1600 anneaux identifiés, à peu près?
Dans le film, on dit 1417. Mais finalement, le comptage a dépassé les 1600, mais désormais, on les catégorise. On voit Bon, voilà, l'étude n'est pas finie. Hein.
On est à 115, 117 mètres de profondeur. Tous ces anneaux, ils font quelle taille de diamètre, à peu
près? Ils font en général 20 à 25 mètres de diamètre.
Ouais. Ils se ressemblent tous, ils sont parfaitement circulaires.
Oui, en général, ils ont un petit noyau rocheux, assez ridicule, hein, 1, 2 mètres cubes de roche au milieu. Au milieu d'un disque de 20-25 mètres de diamètre, donc c'est un peu étonnant. Sur ce noyau rocheux, il y a une population de gorgones blanches, de gorgones peignes que je n'ai jamais vues ailleurs, qui existent, qui ont été décrites dans les canyons profonds de la Méditerranée, mais moi je ne les avais jamais vues ailleurs.
À quoi ça ressemble, un peu des sortes de plumeaux?
Oui, ces animaux qui ont une forme végétale, une forme buissonnante, qui sont là en l'occurrence toutes blanches, quoique de près c'est légèrement rose. Et puis surtout, avec une architecture, là aussi on a l'impression qu'il y a un jardinier qui a bossé.
Et alors, quelles étaient les hypothèses pour expliquer ces formes très géométriques, très nombreuses, qu'on ne connaît aucun équivalent de ces formes dans aucun océan du monde? Peut-être qu'elles existent, mais on ne les connaît pas. Quelles étaient les premières hypothèses?
Les hypothèses, il y en avait plein.
Ouais.
Ça serait d'anciens... Alors, en gros, des cratères. forcément les restes ou les conséquences d'un cratère. Mais est-ce que c'est un cratère d'impact, c'est-à-dire une météorite, une bombe, quelque chose qui tombe, ou est-ce que c'est des cratères qui viennent des entrailles de la Terre ?
Géologiques,
voilà,
des volcans.
Un volcan, une source hydrothermale, de l'eau douce, du gaz, voilà. Il y avait déjà ce point de départ. Bon, est-ce qu'on allait trouver les traces de ça ? Donc moi, j'allais chercher quelque chose d'inerte, un cratère dans un printemps. Mais sauf que quand on arrive en bas, bah, c'est pas inerte, c'est vivant.
C'est grouillant de vie. Oui. Alors, l'énigme, le mystère s'épaissit. Vous allez nous raconter vos plongées sur ces mystérieux anneaux sous-marins. Pour notre première de l'été, Laurent Balesta vient nous raconter sa dernière grande expédition dans les fonds marins au large du Cap Corse. Ça y est, c'est parti, amis bivouaqueuses, amis bivouaqueurs, quel plaisir de replonger avec vous vers de nouvelles aventures.
Pressurisation à 3. 1, 2, 3, pressurisation.
Hôtel, hot water, hotel, valve, open.
Open.
On attaque la descente.
Se lever sur la baie de Calvi. Je lève mon verre, le cœur.
C'était la balade chez Tao, chantée par Jacques Higelin dans Le Temps d'un bivouac sur France Inter.
Aujourd'hui, cette plaine est faite de sable grossier, de débris de coquillages. Elle est balayée par les courants. Elle semble plutôt lunaire. Mais en regardant de plus près, une vie discrète s'est adaptée au désert de sable. La raie étoilée et son œil masqué par une dentelle de peau. Et à l'inverse, les yeux azur, captivants, qui trahissent la présence d'une baudroie devenue sable. La crevette caramotte, le serpenton imberbe, les éponges oreilles d'éléphant, les pénatules arbres de Noël, le corail noir de l'Arix. En le regardant de plus près, j'observe une crevette commensale, elle-même hébergeant une saculine. un crustacé parasite, dans son abdomen. C'est comme les poupées russes. Une espèce peut toujours en héberger une autre, même au cœur de ce qui semblait désertique.
L'œil aiguisé de notre invité plongeur de l'extrême, naturaliste et photographe Laurent Balesta. C'était un extrait du documentaire Cap Corse, le mystère des anneaux, qui est disponible gratuitement sur le site d'Arte. Ces anneaux dont on a parlé, qui sont au nombre de 1600, donc des structures circulaires découvertes à plus de 120 mètres de profondeur, avec un noyau au centre, une sorte de dôme, et puis plus loin, un anneau fait d'une multitude de boules rouges. On pourrait penser que c'est des cailloux, mais on découvrira que ce ne sont pas vraiment des cailloux. Et vous nous le disiez là, juste avant qu'on passe la première musique, ça regorge de vie. Et là, en entendant, on se rend bien compte que ça regorge de vie. Mais cette vie assez amusante, assez extraterrestre finalement, que vous nous décrivez avec ces éponges à oreilles d'éléphant, il faut avoir l'œil du connaisseur pour la voir ou elle saute aux yeux ?
Il faut avoir du temps. Voilà, il faut avoir du temps devant soi, c'est tout. Hein. C'est pas si dur à détecter, mais il faut avoir du temps. Or, si pour le naturaliste terrestre, le temps, c'est une vertu, pour le plongeur profond, c'est un luxe inaccessible, normalement. On ne peut pas, physiologiquement, on ne peut pas rester des heures à ces grandes profondeurs. Donc, il faut redoubler de techniques, de moyens, d'astuces pour augmenter ce temps-là. Et en particulier, là, on a utilisé la station batiale.
Et oui, il faut qu'on en parle de cette... Alors, pour bien que les non-initiés comprennent, si vous descendez à 100 mètres de profondeur avec des bouteilles, vous restez un quart d'heure au fond et il vous faut 5 heures de palier de décompression pour remonter.
Pour un quart d'heure, un peu moins. Mais en général, quand on pousse un peu les choses, on va dire qu'on va rester 30 minutes à 120 mètres et ça va nous coûter 5 heures de remontée.
Voilà. Alors, comment on fait ? Vous nous dites qu'il nous faut du temps pour regarder toutes ces formes
si
de
le problème, c'est de remonter, la solution, c'est de ne plus remonter.
Ouais,
parce que la descente, c'est pas un problème.
Ouais.
Le séjour au fond, avec nos recycleurs électroniques, on a de l'autonomie.
Ouais.
Le problème, il est physiologique. On ne supporte pas ces remontées. Voilà. Ou alors, il faut des temps infinis pour décompresser. Donc, puisque la remontée pose problème, il faut tromper le corps humain, lui faire croire qu'il ne remonte pas. En vérité, on remonte, mais on reste à la pression du fond. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter avec nos petits palmes et de subir la décompression, on rentre dans une petite cloche, une tourelle, un ascenseur qui, lui, est pressurisé. On nous remonte à la surface en une minute. C'est un ascenseur, on appuie sur le bouton, on monte. Mais à l'intérieur de cette capsule, la pression est la même qu'au fond. Donc le corps, lui, pense qu'il est toujours au fond. Quand cette capsule arrive en surface, on la connecte à un petit caisson de vie dans lequel il y a 4 petites bannettes pour dormir, une table, un sas pour la nourriture. C'est tout petit, hein, ça fait 5 mètres carrés. Mais là aussi, la pression est toujours la même. Donc le corps, lui, n'a pas à décompresser, il continue sa plongée en quelque sorte.
Mais Laurent, vous êtes en train de nous dire que pour pouvoir faire ces plongées qui, du coup, ont pu durer jusqu'à
5h15 au fond,
Il faut rester en surface, fermé dans ces 5 mètres carrés avec vos 3 compagnons de plongée pendant des jours et des jours.
Et des semaines. Aussi longtemps qu'on veut faire durer la mission. Et la décompression, on ne l'a fait qu'une seule fois
à
la fin de la mission. Et elle n'est plus fonction du temps à ce moment-là. Elle est fonction plus que de la profondeur. À 120 mètres, ce sera 4 jours. Voilà.
D'accord. Donc il y a un sas de sortie de 4 jours
dans une certaine mesure, il le faut. Et on est isolé dans notre univers à nous. Et après, on va retrouver le tumulte, les obligations, la vie de tous les jours, avec les bons et les mauvais côtés. Et donc, je crois que ces 4 jours de décompression, pour passer du rêve à la réalité, c'est pas mal.
Mais alors quand même, hein, parce que vous nous dites avec un grand sourire, il le faut et tout, mais dans ces 5 mètres carrés avec vos 3 amis et compagnons de plongée, le temps doit passer long. Parce que quand vous n'êtes pas sur le fond en train de faire
Non, ça dépend, voilà. Parce que si on fait vraiment, comme on l'espère, des sorties très longues, 4-5 heures au fond.
Oui.
Quand on arrive à la surface à nouveau, qu'on rentre dans notre caisson de vie, on est lessivé. Oui. On est au bout de nos forces. Tellement la haute pression et l'hélium que l'on respire nous vident de notre énergie et de notre chaleur. Donc, effectivement, théoriquement, on peut rester aussi longtemps qu'on veut, mais on y laisse beaucoup d'énergie. Mmh. Du coup, quand on vient de faire une plongée aussi longue à grande profondeur, derrière, c'est très facile parce qu'on mange et on dort. Oui. C'est tout ce qu'on fait. Oui, on mange, on dort, on lit et on recommence dès qu'on se sent d'attaque. Il n'y a pas à attendre plus que ça. Donc, dans une certaine mesure, est-ce que ce n'est pas le rêve de ma vie?
Oui, voilà. Alors, c'est ça.
Je dors, je mange, je lis, je plonge. Mais qu'est-ce que demander de plus?
Du coup, c'est l'enfermement, c'est le prix de cette grande liberté après.
Oui, oui, c'est ça. On est d'abord des prisonniers, mais volontaires.
Oui.
Bon, déjà, voilà, faut pas pousser la comparaison trop loin, ce serait indécent. Donc, on est des prisonniers volontaires, mais on sait pourquoi, pour une liberté qui n'a pas d'équivalent à ce jour.
Et quand vous êtes au fond, alors vous êtes les bras, les yeux des scientifiques qui, eux, sont toujours en surface ou vous ont donné les missions. Et là, en l'occurrence, quelle mission vous avez confiée pour enquêter sur ces mystérieux anneaux?
Oui, ben, on avait réfléchi ensemble à tous ces protocoles. Et le plus délicat, c'était le carottage.
Ouais.
Creuser avec une carotteuse pneumatique, hydraulique, le cœur de ces anneaux pour sortir des carottes de roches les plus grandes que l'on pourrait et essayer de faire ensuite une analyse et des datations de tout cela. Ouais. Beaucoup disaient que ce serait impossible de faire des carottages à de telles profondeurs. C'est exactement ce qu'il fallait nous dire
pour vous donner envie de le faire.
Donc on s'est battu, on a été beaucoup aidés par la marine nationale et les plongeurs démineurs qui maîtrisent le carottage. Eux, en général, c'est juste pour faire un trou et mettre un bâton de dynamite. Mmh. Mais nous, c'était précisément pour récupérer le cœur. Et grâce à eux, on a réussi à faire ça à 120 mètres de profondeur, parce que ça, par contre, c'est quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas l'habitude.
Ouais. Et ça, tout ça est fait sous l'œil d'un
robot,
sous-marin, qui un peu permet à ceux qui sont en surface de voir comment vous vous en sortez.
Oui, exactement. Oui, ça, c'était un gage de sécurité. Ça rassurait tout le monde. Et puis, au-delà de ça, ça leur permettait de vivre un peu par procuration ce qu'on était. Parce qu'on est quatre privilégiés au fond.
Ouais.
Si tant est que, même si on est des prisonniers,
ouais.
on est des privilégiés. Mais en surface, on était jusqu'à 50 personnes.
Hein. Ah oui. Mmh. Et alors, quand ça se passe pour vous, quand vous faites ce carreau, évidemment, là, c'est très calme au fond de la mer, mais par contre, en surface, au large du Cap Corse, parfois la houle se déchaîne, la tempête...
Oui, nous, on la sent pas.
Arrive. Vous, vous la sentez pas, mais en haut, c'est une autre histoire.
Ça bouge beaucoup, quand même. Hein.
On est au Cap Corse.
Ça. Ah, je l'avais pas vu venir comme ça, quand même. Hein.
Tu voyais pas aussi...
Ah non.
Bah, c'est le problème, c'est qu'on se le prend en contre.
Hein. Essaye de venir sur bâbord, là, beaucoup plus sur bâbord, là. Il faut que tu nous tires dans l'axe, là. T'as vu la houle, là, les trains qui arrivent, là? Ça commence à te compliquer, là.
Théo de Pionnier.
Je crois qu'il faut être raisonnable à y arrêter tout là. Ben, tu vois pas les éléments là? Tu vois pas la houle comment elle rentre là?
Jean-Marc. Oui, Jean-Marc.
Je suis pas sûr qu'ils aient reçu d'autres réponses.
Ok, bien pris. Là, il faut faire un rappel plongeur. Thibaut, il est en train de carotter, il se rend pas compte là, il a pas le temps de lire les SMS.
Vas-y, approche-toi doucement, fais les appels de fin.
Faut qu'il revienne maintenant, faut que Laurent il revienne.
Ok, c'est bon.
C'est bon, je crois qu'il a compris là. Maintenant, on récupère les fautes.
Je t'écoute, Jean-Marc.
Le plongeur arrive
à
la tri, il commence à sortir sa tête.
Ça a été un peu la frayeur de cette expédition, en tout cas pour la surface. Vous étiez tranquille, vous saviez pas ce qui se passait.
Oui, non, à 120 mètres, une tempête, c'est une rumeur. Hein. Même pas une rumeur, on la sent pas du tout. Mais par contre, on s'en est rendu compte. Quand on s'est approché de notre tourelle, la tourelle, elle est directement reliée par un câble à la surface.
Ouais, c'est l'ascenseur qui vous amène
donc,
à la station.
Voilà, l'ascenseur, lui, il faisait des bonds.
Ah oui.
Même à 120 mètres, forcément, il est relié directement à la surface. Et là, il y a eu un petit moment de doute de comment on rentre dans cet ascenseur qui est en train de tourner sur lui-même, qui monte et qui descend de plusieurs mètres. Ouais. Donc ça a été un peu délicat.
Ouais. Puis même, il faut vous prévenir, c'est-à-dire que vous êtes affairé. En plus, à ce moment-là, vous vous étiez un peu éloigné de ceux qui carottent pour être plutôt dans une petite exploration des tombants marins. Et alors, il faut vous appeler, mais on n'a que des appels de phare, il n'y a pas de téléphone. Quoi.
Non, mais on a développé, ça c'est un truc qu'on a développé nous, enfin avec des gens compétents, hein, mais on a un système, c'est d'un côté ça peut paraître pathétique d'avoir ça, mais on peut s'envoyer des SMS au fond de la mer. Voilà.
Oui, c'est ça.
Je suis totalement contre, mais
quand il y a la tempête,
pour la sécurité, c'est pas mal.
Il ouais, faut pas en abuser.
Mais malheureusement, c'est pas très fiable parce que évidemment il y a aucune onde Wi-Fi ou téléphonique qui passe sous l'eau. Oui. Donc tout, enfin malheureusement, c'est peut-être pas plus mal, mais c'est de l'acoustique. Et donc l'acoustique, c'est un signal qui marche bien, mais qui est vite perturbé. Il suffit qu'il y ait du bruit, qu'un cargo et il n'arrête pas d'en passer. passer là-bas. Ouais. Le simple bruit de notre propre navire de surface, un remorqueur de la marine nationale qui était en surface, tout ça fait un bruit de fond qui peut cacher ces messages et qui fait que voilà. Donc on redouble de niveau de sécurité. Il y avait ces messages qu'on pouvait recevoir et puis on avait mis en place des codes avec des jeux de lumière que le robot pouvait venir nous flasher et on comprenait qu'il fallait...
Alors ça, c'était un des éléments de l'enquête. On l'a dit, l'enquête a duré 3 ans. Il a fallu retracer tout le scénario qui avait conduit à la formation de ces cercles sur les fonds marins. Et cette formation a pris beaucoup de temps. Vous allez nous expliquer ce que vous avez découvert exactement dans un instant, Laurent Balesta. Et vous nous parlerez aussi de vos enquêtes en cours et des prochains mystères à résoudre.
Le temps efface tout. Comme l'air après l'orage. Tu oublieras ces mots. Ma voix bientôt divague.
C'était Yeli Yeli qui chantait Nuba Galactica sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Là quand même, ça. Tu crois que ça peut être. Ça, c'est vraiment un surplomb quand même, non? On a peut-être retrouvé un encoche littoral du passé.
S'il était linéaire sur un kilomètre.
Eh oui, là on ne se poserait pas la question.
Ouais. Ah ouais, tu vois, pour moi, c'est aussi assez émouvant, je veux dire, c'est le dernier accident glaciaire. J'ai travaillé dessus pendant toute ma vie et là je viens de voir. Non, c'est la réalité. Parce que jamais en plongée, j'irai le voir. Ça montre la réalité du littoral il y a 21 000 ans. Et donc c'est vraiment très impressionnant.
T'imagines là que c'était une plage avec des vagues qui venaient au bord de cette grotte.
Exactement.
Après les plongées avec bouteilles, une plongée en sous-marin. Il faut imaginer une sorte de bulle transparente avec à l'intérieur Édouard Barre, le climatologue que l'on entendait, climatologue au Collège de France, et notre invité Laurent Balesta. Vous étiez avec lui et... On sent que vous les faites vibrer quand même, ces scientifiques, parce qu'on le sent ému. Alors, il faut nous expliquer.
Là, c'est lui qui m'a fait vibrer, parce que ouais. c'est quelqu'un d'extraordinairement compétent. Là, on est vraiment dans les grands savants, quoi. Quand on discute avec ces gens-là, c'est une autre catégorie de cerveau, même, je crois. Et de le voir ému, cette phrase-là, qui dit peut-être sur un ton un peu neutre, plein de pudeur. Moi, j'en aurais fait des caisses à sa place, ça c'est sûr. Mais lui, quand il dit ça, tu vois, j'ai étudié ça toute ma vie, c'est la première fois que je le vois. Ouais. Pff, Moi, j'avais presque les larmes aux yeux quand il a dit
mais,
ça.
Mais alors, du coup, c'est quoi? Vous êtes face à quoi?
Eh ben, en fait, on est face à quelque chose qui peut paraître à peut-être un peu insignifiant. C'est des petites grottes horizontales et qu'on retrouve comme ça à des kilomètres de distance les unes des autres, mais toujours exactement à la même profondeur. Mmh. Et ça, c'est a priori la preuve d'un ancien littoral fossile. Le littoral d'il y a 21 000 ans, ouais. Une époque au plus froid de l'ère glaciaire, de la dernière ère glaciaire, une époque pendant laquelle, pendant 6 000 ans, ce niveau de la mer n'a pas bougé, il est resté là. Et donc forcément, pendant 6 000 ans, il a marqué le littoral. Un peu comme aujourd'hui, les falaises d'Etretat ou de Bonifacio, bah, ça marque, ça creuse.
Et donc, c'est des mondes engloutis, c'est-à-dire
oui, oui, parce qu'après, quand le niveau de la mer est remonté il y a 18 000 ans, il est remonté très vite. Donc il a un peu figé en l'état ce littoral qui, lui, était resté comme ça, marqué pendant 6 000 ans. Et donc, on cherchait cette trace pour avoir une... Parce qu'on avait daté 21 000 ans, nos anneaux, donc l'origine des anneaux remontait à la dernière ère glaciaire. Ouais. Ça, c'était déjà merveilleux, fascinant comme résultat. Mais on voulait savoir à quelle profondeur... On savait que le niveau marin était beaucoup plus bas à l'époque, mais c'était quelle profondeur exactement. Parce que ça allait expliquer aussi la forme circulaire. Il fallait trouver, parce que si ces anneaux étaient nés, certes moins profonds, mais dans 20 mètres d'eau, par exemple, un récif, il peut pousser dans tous les sens. Si, par contre, il commence à pousser dans 1 mètre ou 2 mètres d'eau, il y a la contrainte de la surface, il y a comme un plafond qui l'empêche de pousser vers le haut, et donc il s'étale un peu comme une crêpe. Et ça allait nous expliquer la forme. Mais pour ça, il fallait savoir cette profondeur. Pour trouver cette profondeur, il fallait trouver des traces de cette profondeur. En l'occurrence, ces grottes que Édouard Barre a su identifier.
Alors, je ne sais pas s'il faut donner tous les détails de ce que vous avez découvert.
Surtout pas.
Complètement, voilà, c'est ça, pour pas complètement divulgâcher à la fois le documentaire qui est encore visible sur le site d'Arte, ou pour les personnes qui sont du côté de Lyon ou qui y passent pour les vacances avec cette exposition aussi sur le mystère des anneaux. Ce qu'on peut dire, sans tout dire, c'est que ce sont des structures qui ont mis énormément de temps à se construire et avec des facteurs, mais pour démêler la pelote. Parce que c'est à la fois lié à la tectonique des plaques, à la fois au changement climatique, à l'élévation et à
la biologie. La biologie qui patine tout ça, qui l'entretient et qui fait que ça dure. Sinon, une fois que le phénomène géologique s'arrête, l'érosion le balaye en quelques siècles, peut-être même plus vite que ça encore. Mais c'est là la force, c'est le paradoxe, c'est la force du mortel. Ouais. La force du vivant de rendre la structure, elle, presque immortelle. Parce que ça va pousser par-dessus et ça va garder une forme reconnaissable 21 000 ans plus tard.
Ouais. Alors c'est un mystère que vous avez résolu avec l'aide de tous ces scientifiques.
Oui, il y a quelques lacunes encore. D'ailleurs, on continue de travailler dessus. Mais le scénario qu'on propose à la fin du film, il est rien ne s'y oppose. Et il a même certains aspects qui sont validés et prouvés par des résultats.
Et ce qui est aussi formidable, c'est que en résolvant cette énigme et en montrant l'importance de ces structures qui, à ce jour, sont uniques au monde, le site va être davantage protégé.
Oui, bien sûr, il ne faudrait pas voir là juste, on a compris, un vestige du passé. Notre plus grande fierté, ce n'est pas d'avoir résolu le mystère des anneaux. C'est d'avoir montré que d'abord, c'était une biodiversité d'aujourd'hui et qu'elle était exceptionnelle, et d'avoir fourni toute cette donnée aux autorités du parc qui, avec le consentement des pêcheurs professionnels, ont fait de cette zone une zone de protection renforcée. Alors ça, c'est une source de satisfaction plus grande que d'avoir résolu le mystère.
Ouais, parce que vous êtes évidemment dans vos expéditions, c'est souvent la préservation, la conservation, la restauration qui n'est pas loin.
Pour être honnête, non. Pour être honnête, la première motivation, c'est l'exploration, c'est aller comprendre des choses, c'est se retrouver au devant de créatures improbables, c'est un peu le côté aventurier d'aller faire des plongées infaisables. C'est d'abord ça, pour être vraiment honnête. Ouais. Après, évidemment qu'on veut donner du sens, évidemment que la seule satisfaction, c'est que derrière, ça puisse aider à la conservation. Mais c'est pas le premier critère.
Un autre exemple, on va se catapulter beaucoup plus loin que le Cap Corse à présent.
Pangatalan, c'est 4 hectares, c'est perdu, c'est ce qu'on appelle de l'as frontière ici. Il n'y a plus rien après nous, il n'y a plus rien. C'est la mer de Chine, c'est le Vietnam, on est la dernière île des Philippines. Et Laurent accepte de faire une mission exploratoire sur la Limule. Et il a apporté ce petit plus. Et si à Paris, si en Suisse, si en Belgique, si de partout ailleurs, ben, on peut parler des limules de Pangatalane, il y a le rêve, il y a un rêve encore derrière.
Et bien voilà, à Paris, sur France Inter, nous allons parler des limules de Pangatalane, grâce à vous, Laurent Balesta. Là encore, c'est un animal absolument fascinant.
Ah oui, fascinant. Il appartient à un groupe qui a 450 millions d'années. Les espèces d'aujourd'hui n'ont pas évolué depuis 100 millions d'années. Donc il est fascinant. C'est un arthropode, mais qui est à la limite plus proche d'un point de vue biologique de... je sais pas moi, du scolopendre géant ou du scorpion à carapace que d'un homard ou d'une langouste, hein, vraiment. Il est très primitif, il a la vue très basse. Par exemple, des chercheurs ont montré que la vision qui se fait, c'est 40 pixels sur 60 pixels.
Ah
on,
oui.
On est loin du 8K.
Ouais, tu vois, voilà. Mais il a d'autres atouts. Parce
bien
que,
sûr, alors, sa robustesse. Ouais. Et puis là, je trouve qu'il y a une analogie avec nos problèmes environnementaux, avec même nos sociétés humaines. C'est-à-dire qu'on a toujours mis sur un piédestal la performance. La performance, la performance. Mais on sait ce que ça donne, la performance, dans l'histoire de la zoologie. Ça court à l'extinction. Je sais pas moi, le tigre à dents de sabre, il était spécialisé, il était fascinant, il était puissant, ça, il n'a pas tenu. L'ours des cavernes, il n'a pas tenu aussi, parce que c'est des animaux trop spécialisés, trop performants dans un critère. La limule, c'est la frugalité incarnée, c'est l'économie d'énergie, c'est se contenter de peu. Et au final, autour de cette île dont on parle aux Philippines de Pangatalane, une île dévastée par des décennies de surpêche, au poison, à la dynamite, une île entièrement déboisée, un récif détruit. On a entendu parler, là, Fred Tardieu, qui est le propriétaire de cette île, mais qui est plus que le propriétaire, il est le restaurateur de cette île. Et ben, au milieu de ce champ dévasté, la seule créature qui a en quelque sorte traversé ça sans encombre, c'est la limule.
Et en plus, elle pourrait nous être utile.
Moi, je trouve ça fascinant, cet animal qui paraît désuet, qui paraît d'une autre époque. On pourrait croire qu'il n'a plus sa place aujourd'hui.
Ouais.
Bon, eh ben, c'est pas, à nouveau, c'est pas une métaphore. L'humanité a besoin de cet animal.
Pour quelle raison ?
À cause de son sang qui a une couleur particulière, son sang qui est bleu, et qui est le seul animal de tout le règne animal d'aujourd'hui qui possède cette molécule très particulière qui permet de détecter instantanément toutes les endotoxines dans nos vaccins et nos traitements injectables. Aucun traitement injectable n'est commercialisé avant d'être passé au test du sang de la limule. Vous voyez, un animal tellement éloigné de nous, à quel point on est lié. Et je trouve que là, il y a une symbolique de l'importance de la biodiversité.
Ben on terminera là-dessus, parce qu'effectivement, le symbole est fort. Alors, il faudra que vous reveniez encore dans ce qu'on a dit.
Moi, je voulais vous parler, par exemple, des loutres.
Ah,
et oui.
Mais moi, je voudrais aussi qu'on entende après.
Ah, d'accord.
Parce que sur les loutres, vous pouvez faire 30 secondes sur les loutres.
Très vite, c'est un échec d'il y a quelques années.
Ah oui.
Et j'aimerais photographier la loutre d'Europe sous l'eau. Voilà, je sais où le faire, mais voilà.
D'accord. Ça fait partie des petits buts. Ce sera Gombessa 7, 8.
Je ne sais pas si ce sera un Gombessa, mais ce sera un projet, en tout cas, intéressant. Et surtout local.
Merci Laurent Balesta. Je rappelle que le documentaire Cap Corse, le mystère des anneaux, est disponible gratuitement sur le site d'Arte. Je signale aussi l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes au musée des Confluences à Lyon, le mystère des anneaux, qui revient aussi sur cette aventure. Restez avec nous, hein, Laurent, parce que dans un instant, nous avons rendez-vous avec Marc Giraud, naturaliste de terrain. Ça devrait vous intéresser. Nouveau venu dans le temps d'un bivouac. Tous les lundis, il va nous emmener observer la nature. Et aujourd'hui, un oiseau qui a des similitudes avec les dauphins.
Goes, yeah, there she goes, and if- flowers grow from the ground. It seems so hard to deny the pervy rose can't pass her by, but there she goes, yeah, there she goes.
There she goes, Curtis Harding sur France Inter. Merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein.
Souvent, je me dis, mais comment fait la nature pour créer des choses aussi parfaites?
Et nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau venu dans le temps d'un bivouac, Marc Giraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un naturaliste de terrain, auteur de nombreux ouvrages, dont La nature en bord de chemin, chez Delachaux et Niestlé. Et c'est précisément l'idée de cette chronique qu'on va retrouver tous les lundis de l'été. Allez observer et écouter la nature en bord de chemin. Aujourd'hui, on s'intéresse à un oiseau, le martinet. C'est facile à identifier, à reconnaître ?
C'est très facile à identifier. C'est beaucoup plus facile à voir que le sélacanthe. J'en ai vu au-dessus de la maison de la radio en arrivant. Ouais. Donc, mais il faut en profiter parce qu'ils vont bientôt partir. Hein. Dès 8 août, déjà, ils sont partis.
D'accord.
C'est dernier arrivé, premier parti.
Et alors, il ne faut pas confondre le martinet avec l'hirondelle. C'est la petite erreur
oui,
des
ils
débutants.
Ont un peu les mêmes mœurs si on les confond. Bon, le martinet est plus grand, mais dans les airs, ça ne se voit pas. Il a une forme de croissant de lune. Il est très, très, très aérodynamique. Et ils poussent pas du tout les mêmes cris.
Alors justement, on va écouter d'abord une hirondelle alors ?
Oui.
Ça c'est
l'hirondelle de fenêtre, c'est celle qui niche sous les fenêtres, comme son nom l'indique, qui est très familière, donc si vous en avez près de chez vous, vous reconnaissez. C'est une des deux qui sont familières et l'autre on va l'écouter. Voilà, ça c'est l'hirondelle rustique, celle qui a une longue queue fourchue qui est plus typique, mais qu'on ne voit pas dans les villes. Les dernières à Paris, elles étaient aux eaux de Vincennes dans un kiosque où il y avait encore des gros animaux. Sinon c'est dans les granges, dans les grands bâtiments. Il n'y en a pas en ville de celle-là.
Et alors le martinet noir, c'est très différent au final ?
Et le martinet, alors vous allez le reconnaître parce qu'il est dans toutes les bandes-son de films, même en hiver, quand ça se passe en hiver, des fois on l'entend.
Ah oui,
c'est très
plus,
typique.
C'est plus aigu.
Voilà. Dès que vous avez un film en été, vous entendez ça.
Alors, on dit qu'il ne se pose jamais, ces martinets, c'est vrai ?
Mais oui, c'est presque vrai, c'est presque vrai. Il passe au moins 9-10 mois sans jamais se poser.
Ouais.
Il se nourrit en vol de plancton aérien.
Ah.
C'est pour ça que quand on envoie des groupes, c'est qu'il y a un nuage de plancton aérien, des moucherons, des araignées volantes, des tas de choses comme ça. Ouais. Un couple de martinets qui nourrit, ça peut être 20 000 moucherons dans la journée quand même. C'est un insecticide gratuit,
ouais.
Non polluant, donc préservons-les. Ils s'accouplent en vol quand même, ça c'est assez remarquable. Ils peuvent le faire au sol dans le nid, mais ils le font en vol. La femelle donne des signes d'acquiescement et le mâle se pose dessus. Ça dure assez rapide chez les oiseaux.
Assez rapide,
c'est ce qu'on appelle un baiser cloacal, contact, et c'est fini.
Et puis c'est fait.
Donc ils peuvent s'envoyer en l'air.
D'accord, oui, c'est ça. Mais vous me disiez comme les dauphins, c'est-à-dire qu'ils dorment en vol aussi ?
Ils dorment en volant. Ouais. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est les premiers aviateurs qui ont trouvé ça. Ils percutaient des oiseaux à 2-3 km d'altitude. Et ces oiseaux, c'était des martinets. Et ils font comme les dauphins, c'est-à-dire ils montent très haut, et il plane en pilotage automatique avec un seul hémisphère en activité et l'autre au repos, exactement comme les dauphins nagent en dormant à moitié. Donc ça, c'est vraiment une des grandes, grandes particularités du martinet. L'autre, c'est qu'ils volent très, très, très vite quand même. Ils chassent à 60 à l'heure, ils font des pointes à 200, ça a été chronométré. Et quand ils se font courser par un faucon, ils peuvent quasiment doubler leur vitesse. Donc ils peuvent faire 500 km par jour.
Ah oui, 500 km par jour. Ah mais ça a de l'endurance, c'est incroyable. Ah ben oui.
Donc on a calculé qu'un martinet qui avait 16 ans pouvait avoir fait 6,5 millions de kilomètres dans sa vie, c'est-à-dire 8 fois le trajet aller-retour de la Terre à la Lune.
Ouais.
Donc ce sont vraiment des oiseaux, ce sont les plus volants de tous les oiseaux, ils sont extraordinaires. Moi j'aime bien montrer l'extraordinaire dans l'ordinaire, parce que ce sont des oiseaux très familiers. On peut les voir à la campagne, en ville, partout. Et ils ont une dose de mystère, on connaît très très peu de choses d'eux finalement.
Vous en avez vu, Laurent Balesta, des martinets survoler la mer Méditerranée ?
Eh ben, je me demande si des fois on a ces petits oiseaux qui se posent sur les bateaux, qui ont pas l'air d'être des oiseaux marins, et qui font comme une sorte de pause peut-être dans la migration, je sais pas.
Alors les martinets, ils ont beaucoup de mal à se poser, sont des apodes, ils ont quasiment pas de pieds justement. Quand on dit qu'une hirondelle est posée au sol et qu'elle peut plus s'envoler, c'est un martinet en général. Donc ils doivent pas se poser, eux. Tout sauf eux, en fait.
Autre comportement assez édifiant, commun avec les dauphins, Marc Giraud.
Alors, déjà, ils vont très très vite sans quasiment bouger. On a beau m'expliquer avec les lois de la physique que c'est normal, etc. Ils ne bougent quasiment pas. On les voit un petit peu trembler des ailes de temps en temps et c'est tout. Comme les dauphins, on ne les voit pas faire des grands coups de queue et pourtant ils dépassent le bateau à une vitesse incroyable.
Et puis ils peuvent guider les naufragés, c'est ça?
Alors ça, c'est une histoire vraiment extraordinaire qui est arrivée à un parapentiste israélien qui s'appelle Amand A. Pendant un championnat en Autriche, donc il était en parapente et il y a eu une grosse tempête, il a été perdu. Il a vu des oiseaux qui allaient vers lui, qui repartaient, il s'est dit, bon, je suis perdu, je vais les suivre. Et non seulement il a été sauvé, mais il a gagné son championnat. Et il ne savait même pas que c'était des martinets, il ne savait même pas que les martinets existent. Et depuis, c'est devenu un grand défenseur des martinets.
Il a eu l'intuition de les suivre. Allez, rapidement pour finir, parce que je crois que ça vous tenait à cœur et vous avez raison. Où nichent-ils et pourquoi il faut en prendre soin et les protéger, ces martinets?
Alors, ils nichent dans les cavités des maisons. Mais le problème avec le réchauffement, c'est qu'il fait tellement chaud que les oisillons sortent. Ils ne peuvent plus, ils sont au four, ils ne peuvent plus, ils se suicident. Ils sortent et les centres de sauvetage de martinets sont complètement débordés aujourd'hui. Ils ont besoin de bénévoles, de nourriture aussi, d'argent pour la nourriture. Il y a une association qui s'appelle les Rémiges Noirs, que je connais bien, qui est spécialisée dans les martinets, qui travaille avec Maison Alfort, mais ils recueillent des martinets de toute la France. Les Rémiges Noirs, c'est
les Rémiges Noirs. On va mettre le lien vers le site lesremigesnoirs.fr.
Il y en a d'autres, mais eux sont vraiment spécialisés et en ce moment, ils ont vraiment un gros problème de chaleur.
Merci Marc Giraud. Je rappelle le titre de votre livre qui vient d'être réédité, La nature en bord de chemin chez Delachaux et Niesley. Puis il y a aussi un petit livre à glisser dans la poche, en balade, reconnaître facilement les animaux et notamment les oiseaux. C'est aussi chez Delachaux et Niesley. Un grand merci à vous Marc et à lundi prochain.
À lundi prochain.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Pour nous laisser un message, il y a nos pages Instagram et Facebook. À demain pour de nouvelles aventures.